Vous écoutez France Culture.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Place de la Toile, le magazine hebdomadaire des cultures numériques. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Au sommaire de l'émission, plongé dans son ordinateur, Thibaut Henton se demandera pourquoi les souris pointent à gauche. Thibaut qui mènera exceptionnellement l'entretien avec moi. Le son, ce sera du hip-hop italien. Quant à notre invité du jour, Fadi Chehadé, pour parler gouvernance de l'Internet. Bonjour Fadi Chehadé.
Bonjour.
Ce n'est pas tous les jours qu'on a face à nous pendant 50 minutes, et pour nous tout seuls en plus, le patron de l'ICANN, et d'ailleurs nous devons remercier pour ça David Martinon. Pour l'expliquer grossièrement à nos auditeurs, mais on prendra le temps d'y revenir plus en détail, l'ICANN c'est le principal organe de gouvernance de l'Internet, ce qui signifie que pour nous qui nous intéressons au numérique, recevoir le président de l'ICANN, c'est un peu comme recevoir le directeur général de l'OMC si on s'intéressait au commerce, ou le président de la FIFA si on s'occupait de football. Mais Internet, ce n'est ni le football ni le commerce. Et il y a dans la manière dont fonctionne l'ICANN, dans son statut même, des particularités qui ne manquent pas de poser des questions. La dépendance vis-à-vis des États-Unis, les débats qui ont lieu pour savoir si l'Internet doit être géré par les États dans une sorte d'ONU numérique ou s'il faut maintenir une gestion multi-acteurs où sont impliqués les États, mais aussi les entreprises et la société civile, les usagers. Et puis, il y a bien sûr les suites de l'affaire Snowden, du système de surveillance installé par les États-Unis, qui paradoxalement a obligé l'ICANN à se positionner, voire l'a fait apparaître comme une voie de recours possible, mais aussi à montrer que techniquement, ce n'était pas là où était finalement le pouvoir, puisque la NSA ne s'est intéressée à rien de ce qui dépend directement de l'ICANN. Bref, nous avons nombre de questions à vous poser aujourd'hui, Fadi Chehadé. Bienvenue dans Place de la Toile. Mais pour commencer, si vous le voulez bien, parce que je pense qu'une grande partie des gens qui nous écoutent ne vous connaissent pas, quelques mots sur vous et ce qui vous a amené à présider l'ICANN. Vous avez 52 ans, vous êtes né au Liban, vous êtes né de parents égyptiens au Liban, vous êtes parti faire des études aux États-Unis, des études d'informatique au départ à New York et puis de management à Stanford. Vous avez été naturalisé américain en 1986. Question toute bête, mais pourquoi cette naturalisation? Vous aviez déjà deux nationalités,
oui.
Libanaise et égyptienne, pourquoi une troisième?
En vivant aux États-Unis, on m'a offert la résidence et puis de là, on offre être citoyen américain et je l'ai accepté dans le temps pour mes enfants, pour ma famille et pour mes parents, pour les amener du Liban. C'était le moyen que je puisse amener mes parents du Liban.
Et vous parlez très bien français parce que vous avez été éduqué par les frères au Liban.
Oui.
Vous avez travaillé ensuite au Bell Labs, qui est un lieu important de l'histoire de l'informatique et des télécommunications. Vous avez fondé plusieurs entreprises. Vous avez été un des dirigeants d'IBM, de IBM. Et puis, le 1er octobre 2012, vous avez été nommé président de l'ICANN. Alors, évidemment, je vais très vite sur vos 30 ans de carrière. Comment vous avez eu les premiers contacts avec l'ICANN? Comment ça s'est passé? Et puis, quelle idée de devenir un jour un des dirigeants de l'ICANN, Fadi Chehadé?
Alors, moi, j'ai été appelé par l'ICANN. Je n'ai pas mis mon nom pour ce rôle très, très compliqué, d'ailleurs. C'est un rôle très différent de tout ce que j'avais fait avant ce point. Mais quelqu'un avait mis mon nom comme un candidat et j'ai été appelé par l'ICANN. Et j'ai accepté l'appel et on a discuté les possibilités. L'ICANN est une organisation très différente de toutes les organisations que j'ai connues, que j'ai dirigées. Parce qu'en même temps, c'est une grande organisation de plusieurs centaines de personnes et cette année, on aura un budget de 200 millions de dollars. Mais en même temps, c'est aussi un rôle assez politique. C'est un rôle où on représente quand même un pouvoir très important.
Donc, alors justement, Fadi Chehadé, est-ce que vous pouvez, parce que ça c'est toujours très compliqué, d'expliquer à nos auditeurs en quoi l'ICANN est un lieu stratégique et un lieu important de la manière dont fonctionne l'Internet.
Je crois que beaucoup d'entre nous, même moi à un certain point, on n'était pas clair que l'Internet, ce n'est pas un réseau. C'est des milliers et des milliers de réseaux qui sont liés ensemble à travers une couche. Et cette couche technique, elle comprend trois racines. Une racine pour les noms, c'est comme ça qu'on trouve www.ibm.fr par exemple. Et elle, il y a une racine pour les nombres, parce qu'on a tous des nombres IP numbers, comme on les appelle, qui nous lient à l'Internet pour les téléphones et pour les ordinateurs et ainsi de suite. Et troisièmement, il y a des protocoles. Il y a aussi une racine de protocoles. Et c'est l'ICANN qui s'occupe de ces trois racines. Et si ces trois racines n'existent plus un jour, il n'y aura plus un Internet. Mmh. Il y aura des milliers de réseaux. Et on perdra l'unité que l'Internet amène au monde. Donc, le rôle est important, premièrement, parce que opérationnellement, si on a un problème, on ne pourra plus trouver beaucoup de choses sur l'Internet. Deuxièmement, parce que le rôle garde la nature de l'Internet comme un lien mondial entre tous les pays, toutes les communications entre les pays. Et surtout que la couche IP, Internet Protocol, maintenant devient de plus en plus importante, pas pour, seulement pour les communications de données, mais aussi les communications de voix. Il y a beaucoup d'appels qui se passent sur cette donnée. Et finalement, parce que je crois que l'économie mondiale, maintenant, a une grande partie qui est basée sur l'Internet. Le numérique n'est plus un secteur. C'est vraiment tous les secteurs.
Et alors, l'ICANN fonctionne comment ? Il y a un board, hein,
oui,
que vous dirigez, donc vous êtes le président.
Moi, je suis le président et le CEO de l'ICANN, mais il y a un chairman of the board qui est le responsable du conseil d'administration. Nous avons deux membres du conseil qui sont français, Sébastien Bachelet et Bruno Lanvin de l'INSEAD. C'est un board qui est très diverses, qui viennent de tous les pays du monde. C'est par design, c'est par planifié décision, comme ça. Et le board ne fait pas toutes les décisions. Les décisions à l'ICANN sont faites bottom-up. C'est-à-dire, on
du
écoute...
Du bas vers le haut.
Oui, c'est du bas au haut. Le board est simplement là pour être sûr que tous, on a eu la possibilité de faire les décisions. Tous les acteurs ont la possibilité de participer comme ils le font.
Et par exemple, les décisions que vous prenez au sein de l'ICANN, c'est quoi ? C'est quel type de décision ?
Hier, par exemple, on a fêté le nouveau top-level domain, ce qu'on appelle top-level domain pour la France.
Un domaine de haut niveau ?
Oui, point Paris.
Ah, donc, par exemple, la création, d'ajouter au .fr, .net, voilà. .info, .com qu'on connaît déjà, un point Paris.
Ça, c'est donc une décision.
C'est une sorte de l'ouverture d'une sorte de petit continent numérique, disons, de petit territoire numérique.
Voilà.
Ça relève des prérogatives de l'ICANN.
Voilà.
D'accord.
Alors, ajouter, s'il y a un nouveau pays, comme il y a quelques années, il y avait le Sud-Soudan, par exemple. Mm-hmm. Alors, ce nouveau pays, il a un nouveau point quelque chose. C'était SS pour le Sud-Soudan. Pour rajouter ça dans la racine de l'Internet, comme ça on peut tous le trouver, ça c'est une décision du point de vue policy et du point de vue opérationnel qui est faite et administered par l'ICANN.
D'accord. Alors, ça, on comprend globalement. Alors après, évidemment, techniquement, c'est extrêmement complexe parce que ça, c'est une sorte de description, je ne suis pas désagréable en disant ça, mais grossière de la manière dont ça fonctionne.
Oui.
Parce que si on rentre dans le détail, c'est très compliqué, mais il faut quand même rentrer un tout petit peu dans le détail. Et notamment parce qu'il y a quelque chose qui est très compliqué à comprendre, c'est le rapport qu'entretient l'ICANN aux États-Unis. C'est une émanation du gouvernement clintonien, enfin de l'administration clintonienne, c'est 98. Bon. Et c'est très encore lié au gouvernement américain d'ICANN. Et du coup, j'aimerais bien comprendre, est-ce que vraiment tout ça relève des prérogatives de l'ICANN ? Qu'est-ce que peut faire l'ICANN sans décision du gouvernement américain ? C'est-à-dire, par exemple, typiquement, là, vous dites l'implémentation ou la création d'un nouveau continent comme le point Paris, bon, c'est une décision de l'ICANN, d'accord, mais est-ce que l'ICANN pourrait vraiment créer un continent comme le point Paris, ou comme le point, plein d'autres points, sans que les États-Unis soient d'accord ?
C'est une très bonne question. Alors, je commence avec un peu d'histoire. Quand l'ICANN a été créé par l'administration de Bill Clinton en 1998, depuis ce moment, même dans la création, les papiers de création, on a envisagé qu'à un certain point, l'ICANN sera indépendante du gouvernement américain. Et d'ailleurs, à travers les années, le rôle du gouvernement a diminué. Et il continue à diminuer. Alors, à ce moment, le seul rôle que les Américains, le gouvernement américain a, c'est que, à la fin d'un très long processus de décider que Point Paris doit être ajouté à la racine de l'Internet mondial, il y a un point de checkpoint, un checkpoint avec le gouvernement américain pour dire on va l'ajouter. Non, durant 15 ans de l'existence de l'ICANN, ils n'ont jamais dit non. D'accord. C'est important de savoir ça. C'est un rôle vraiment très, maintenant, faible, opérationnel, et ils n'ont jamais interféré dans les décisions du processus qui est du bas au haut, qui est décidé par tous les acteurs. Et c'est important de savoir que les acteurs à l'ICANN, c'est la société civile, c'est les industries, c'est les gouvernements. Nous avons 133 gouvernements maintenant qui agissent dans l'ICANN. C'est les techniciens, c'est les académiques, c'est tous.
Alors, c'est ce qu'on appelle le multi-stakeholder en anglais, multi-acteur en français.
Multi-acteur, voilà. Alors, le gouvernement américain a ce rôle qui est, je dirais même, très limité à ce stage et qui n'ont jamais utilisé ce pouvoir de veto. Ils n'ont jamais utilisé. Maintenant, depuis quelques mois, en discussion dans la communauté, c'est clair que l'ICANN est maintenant assez mûr et assez préparé, après toutes ces années, pour transférer le rôle des États-Unis, qui était un rôle, disons, de checkpoint très limité, à la communauté, qu'on est au point où on n'a plus besoin de ce rôle des États-Unis. Et je crois que c'est un point important. C'est un point historique, et surtout parce qu'hier, le board de ICANN, qui est le conseil d'administration, a annoncé qu'ils vont me donner le mandat de travailler, de commencer à travailler, à transitionner le rôle des États-Unis, qui est, disons, à ce moment très faible, très limité, mais le transitionner à la communauté de l'ICANN.
Thibault. Oui, vous dites que le rôle des États-Unis est relativement faible, mais alors il faut bien distinguer au sein de l'ICANN. L'ICANN s'occupe des noms de domaine. À l'intérieur de l'ICANN, il y a l'IANA qui s'occupe des adresses IP, des nombres. Et cette fonction IANA au sein de l'ICANN, donc qui s'occupe des nombres, dépend elle aussi donc de la Chambre de commerce du département de commerce des États-Unis et dispose d'une sorte de d'un mandat pour quelques années pour s'occuper de cette fonction des chiffres. Et cette fonction ne peut être réservée qu'à une entreprise américaine. Dans l'appel d'offres qui a été reconduit il y a peu, c'est l'ICANN qui a été à nouveau mandaté pour s'occuper de la fonction IANA. Et ensuite, via l'IANA, c'est VeriSign, qui est une entreprise à nouveau américaine, qui s'occupe de ça. Donc, j'ai du mal un peu à comprendre dans quelle mesure ce rôle des États-Unis est si faible par rapport à cette situation.
Fadiche Adé.
C'est important de comprendre que la décision du board hier, donc ces nouvelles-là, c'est de transitionner tout ce que IANA fait d'une responsabilité qui a une couche de check américaine à une responsabilité qui est transférée à la communauté de l'ICANN, qui est tout le monde. Donc ça, c'est tout inclus dans le nouveau, disons, trajet qu'on commence tout de suite, parce que l'ICANN est un point très mûr maintenant. On est préparé, il y a un team assez fort, on a beaucoup d'expérience dans le domaine opérationnel et international. L'ICANN a changé beaucoup de ses procédures. On n'est pas fini. Il y a beaucoup à évoluer, beaucoup à faire encore. Mais on avance vers ça. Simplement, une petite chose que l'IANA, d'ailleurs, est responsable pas seulement pour les nombres, mais aussi pour les noms et aussi pour les protocoles. Donc, tout ce qu'on fait qui est au sein de l'ICANN, du point de vue opérationnel pour le monde, est sous ce même contrat dont vous avez noté.
Mais c'est, en fait, ce qui me perturbe un peu dans cette histoire, c'est que dès lors que le département du commerce fait un appel d'offres pour s'occuper de la fonction IANA et mandate l'ICANN pour s'occuper de cette fonction IANA, comment l'ICANN peut reprendre la main sur cette fonction alors que ce n'est pas elle qui a la main au départ?
Non, la main a toujours été avec l'ICANN du point de vue opérationnel. C'est-à-dire le département nous a donné un contrat, mais le contrat, c'est pour performer ses fonctions, ce qu'on a fait pour 15 ans, il faut bien dire sans une seconde d'interruption. C'est très important. La stabilité de ce qu'on fait, pas seulement est importante et a été maintenue, mais on va la garder. Mais deuxièmement, c'est que le rôle du gouvernement dans ce contrat, qui était, comme j'ai bien dit, très limité à faire un check, qu'on fait ce qu'on dit on va faire, ce rôle, ou ce qu'on appelle en anglais le « oversight role », va passer du... On va demander maintenant qu'il passe du gouvernement américain, comme on a toujours envisagé, à la communauté.
Et Fadi Shahadé, pourquoi est-ce que tout à coup les États-Unis sont prêts à transférer ces pouvoirs-là à l'ICANN, alors qu'on sait que pendant très longtemps, ils ont été très hostiles, l'administration Bush était très hostile à l'idée d'un transfert de ce pouvoir-là à l'ICANN. Alors pourquoi est-ce que tout à coup, alors je sais qu'il y a eu un rapport qui a été remis au président Obama il n'y a pas très longtemps, disant que c'était plutôt favorable à ce transfert, mais pourquoi ça? Enfin, c'est quand même se priver d'une mainmise, même si vous dites qu'elle est très réduite, etc. C'est quand même un contrôle ultime. C'est-à-dire qu'en gros, ça veut dire que vous ne pouvez rien faire si les États-Unis, au final, ne veulent pas le faire. Bon. Donc pourquoi tout à coup, ils sont prêts à ça?
Alors, je veux être clair qu'ils n'ont pas dit encore qu'ils sont prêts à le faire. Ce qui s'est passé, c'est que notre conseil d'administration, maintenant, est arrivé à la décision que ce qui a été...
C'est vous qui êtes prêts.
Nous sommes prêts. D'accord. Alors, pour ne pas dire quelque chose qui n'est pas encore prêt, mais on va commencer les discussions avec eux. Maintenant que mon conseil d'administration a dit que c'est possible qu'on discute ça, et il faut noter que mon conseil d'administration, dans le même mandat, m'a aussi demandé de faire d'autres choses très importantes. Par exemple, jusqu'alors, jusqu'aujourd'hui, l'ICANN est une société américaine basée en Californie.
De droit californien, oui.
Et le board m'a donné maintenant le mandat de commencer les discussions pour créer une organisation internationale en Suisse.
Ah ben ça, on y reviendra. On y reviendra. Ça soit la question d'aller en Suisse, ouais.
Mais pourquoi ils sont prêts? Vous m'avez demandé. Ouais, je vais parler de ça. Ou pourquoi nous croyons qu'ils sont prêts?
Ouais. Vous espérez?
J'espère prêts. Bien. Et je crois que le moment est bon parce que l'ICANN a changé beaucoup dans les années passées. Et ce qu'on a écrit dans l'ICANN, la création de l'ICANN, est tout aujourd'hui vrai. C'est que l'ICANN opérationnellement est prête, la communauté est engagée. On avait, je vais être direct, on avait peu de vraiment d'engagement en dehors du monde occidental. Depuis que je suis arrivé, on a changé ça.
Maintenant, c'était sans doute une des raisons d'ailleurs pour lesquelles on a fait appel à vous.
Je crois qu'une des raisons, oui, que je suis là, et c'est que j'ai une perspective internationale, je parle plusieurs langues. Je vais moi-même avec ma famille m'installer à Singapour dans un mois. Et puis plus tard cette année, je vais faire aussi le pas pour aller à Istanbul pour démontrer que la présidence de l'ICANN n'est pas nécessairement aussi basée aux États-Unis.
Thibault. On comprend donc que vous avez un rôle très politique. Vous l'avez dit d'ailleurs en commençant cet entretien. Qui dit rôle politique dit vision politique. Donc quelle est un peu la vision sous-jacente de l'Internet qui anime votre action au sein de l'ICANN?
Fadi Shahadé, question simple.
Je viens d'une partie du monde où on a trouvé tous les moyens pour diviser les gens. Tout nous divise. En Égypte, au Liban, tout nous divise. J'ai passé ma jeunesse à voir comment peu de choses peuvent nous diviser. Des frères se bataillaient dans leur maison à cause de décisions qui ont été faites politiquement. Pour moi, l'Internet, c'est une des dernières ressources qui nous unit, qui nous amène ensemble, qui nous ouvre l'un à l'autre, qui change les pays et les gens de forteresses à des oases, à
des oasis.
Des oasis ouvertes où les gens peuvent parler, peuvent discuter, peuvent échanger des idées. C'est pour ça que c'est ce qui me garde vraiment à cœur ici dans ce travail.
Mais Fadi Chehadeh, depuis 6 mois, l'affaire Snowden nous apporte révélation sur révélation sur le fait que voilà, les réseaux sont largement surveillés par les États-Unis. C'est pas tellement dans l'ordre de la vision que vous avez de l'Internet, ça?
Non. Non. Ce n'est pas dans notre vision de...
Je crois. Et donc, que faire?
Il faut remettre la confiance dans les systèmes de l'Internet. Il faut essayer de remettre la confiance.
Et je vous
ça
assez,
prendra
c'est...
du temps.
Qu'est-ce que ça veut dire, remettre la confiance dans le système d'Internet? Concrètement, ça veut dire quoi?
C'est-à-dire arriver à créer des principes qu'on puisse tous accepter comme des principes de base pour la confiance en ce réseau. Il n'y aura jamais une confiance complète. Mm-hmm. Le réseau est puissant et il donne à tous beaucoup de possibilités, quelques-unes qui sont acceptées par nous tous, d'autres non. Mais il faut chercher des moyens de recréer un esprit de confiance. Ce n'est pas possible à travers le monde, partout, mais on doit essayer.
Là, vous parlez en politique, mais en technique, ça veut dire quoi, redonner de la confiance?
Si vous regardez, par exemple, ce que nos amis dans l'organisation technique qui s'appelle le IETF sont en train de faire, ils sont juste, pendant qu'on parle, en train de penser à tout genre de protocole pour pouvoir limiter la surveillance sur l'Internet ou au moins la rendre beaucoup plus difficile.
Alors justement, ça, c'est très intéressant parce que c'est quand même un paradoxe de toute cette histoire Snowden. C'est que... On s'est aperçu, enfin en tout cas, de ce qu'on sait jusqu'à maintenant des systèmes de surveillance qui ont été installés par la NSA, aucun ne concerne ce qui est sur les prérogatives de l'ICANN. Et c'est pour ça que vous dites que c'est l'IETF qui aujourd'hui réfléchit à des systèmes pour redonner la confiance, parce qu'en fait, là où ça n'a pas marché, disons, là où ont agi la NSA, les services de secret américains, c'est des choses qui sont sous le contrôle de l'IETF, pas sous le contrôle de l'ICANN, pas ce qui concerne justement ce que vous avez dit, c'est-à-dire les noms de domaines, les registres de nombres, etc. C'est pas ça. Bon. Donc, est-ce que ça veut dire, c'est ce qui est compliqué, c'est que tout à coup, on se dit, ah, mais si ça n'intéresse pas la NSA, ce qui se passe sous l'ICANN, c'est qu'au fond, c'est pas si important que ça. Est-ce que vous êtes un vrai lieu de pouvoir si la NSA ne s'intéresse finalement pas à vous, mais s'intéresse plus à ce que fabriquent les IETF ou d'autres, hein?
Il y a plusieurs couches dans l'Internet qui sont intéressantes à différents organismes de gouvernement. Par exemple, dans notre domaine de l'ICANN, oui, c'est vrai qu'on n'est pas au sein ou au cœur des couches où une surveillance peut prendre place. Mais on a d'autres intérêts. Par exemple, s'il y a des gens qui font de la pornographie des enfants dans le monde sur des sites Internet. Alors là, l'Interpol, Europol, le FBI sont très intéressés à travailler avec l'ICANN pour trouver la racine de ces sites.
D'accord.
Et voir comment s'en occuper. Donc, il y a des rôles différents dans les différentes couches de l'Internet. Nous, par exemple, en dessous de nous, c'est ce que l'IETF fait. Et en dessus de nous, c'est où les contenus sont sous la gestion de protocoles du W3C et d'autres groupes. Donc, nous ne sommes pas les seuls. Ça, c'est très important à comprendre que dans la gouvernance de l'Internet, la gouvernance de l'Internet a été construite comme l'Internet.
C'est-à-dire donc, par des couches
Distribuée, complètement ouverte à la participation, ce que je peux être clair, d'autres organismes qui font des protocoles pour, disons, les télécommunications ne sont pas ouverts comme nous. Mmh. Nous sommes complètement ouverts. N'importe qui peut venir, n'importe qui peut participer dans tous ces organismes de la gouvernance de l'Internet.
Toute petite team.
Parmi les solutions préconisées pour restaurer la confiance dans le réseau, il y a par exemple les systèmes de nommage alternatifs, comme celui qui est employé par le réseau Tor, donc qui est un système alternatif au domain name system dont s'occupe l'ICANN, qui consiste à passer de proxy en proxy pour masquer finalement la provenance de la connexion, etc. Donc parmi les solutions pour restaurer la confiance dans l'Internet, il y a celle de privilégier des systèmes et donc de déposséder l'ICANN de ses prérogatives.
Oui, regarde, il y aura beaucoup de solutions pour adresser différents problèmes. Et la beauté de l'Internet, c'est que tout le monde a la possibilité d'essayer et de faire différentes choses. Nous, nous ne sommes pas ici pour sauvegarder le DNS. Nous sommes ici, pour faciliter que l'Internet soit stable, continue à faire ce qu'il fait. Et si, disons, le monde décide qu'il y a un autre moyen, ben, le monde décide qu'il y a un autre moyen. D'ailleurs, je viens de rembaucher le monsieur qui a inventé le DNS, d'ailleurs, qui vit à Paris.
Il avait été débauché ?
Non, mais je l'ai ramené à l'ICANN. Il n'a jamais été à l'ICANN, il était à l'ITF.
Ah, oui, okay.
Il s'appelle Paul Mokapetres, il enseigne à Paris ici. Et Paul est maintenant à l'ICANN. Pourquoi je lui ai demandé de retourner ? Pour étudier le futur. Est-ce que le DNS va être là ? Est-ce qu'il ne va pas être là ?
Est-ce qu'il ne va pas être ailleurs qu'à l'ICANN, le DNS ? Parce qu'il y a d'autres qui s'intéressent à ça.
Hein. Alors, il faut être ouvert, il faut accepter qu'il y aura peut-être d'autres solutions.
Fadi Chahadé, on va poursuivre notre discussion dans quelques instants, mais tout de suite, la chronique de Thibaut qui s'est plongé dans son ordinateur cette semaine pour répondre à la question « Mais pourquoi la souris pointe-t-elle à gauche ?»
Pourquoi la souris penche-t-elle à gauche ? Le curseur, le pointeur, la petite flèche, c'est vrai ça ? Elle pourrait être toute droite ? Qu'est-ce qui explique que cette flèche penche légèrement vers la gauche ? C'est purement arbitraire ou ça se justifie techniquement ? J'essaie de penser le truc par moi-même. Bon, quand on fait un coup droit en tennis, eh ben, ça part de la droite vers la gauche. Bon, non, bon. Je lance une petite recherche en anglais. Mouse, cursor, left. Quelque chose comme ça. Évidemment, je tombe d'abord sur un tas d'articles qui s'adressent aux gauchers, leur expliquent comment configurer leur souris pour être tout à fait à l'aise. Tiens, voilà la question posée sur un site avec plein de réponses. De là, je récupère un document de 1981, un papier des chercheurs du Xerox PARC, le fameux centre californien de recherche en informatique, un papier intitulé « The Optical Mouse », la souris optique, qui concerne donc une nouvelle génération de souris, celles qui n'ont plus besoin de boules à l'intérieur pour déterminer la place du curseur à l'écran, mais des souris optiques donc qui bougent en regardant directement le support, le tapis, la table sur lesquelles elles glissent. Je lis... Petit 2 de ce document, parfait. Un récapitulatif de l'histoire de la souris, donc je récapitule. Fin des années 60, Douglas Engelbart, à qui l'on doit de nombreuses inventions en informatique, confère la mère de toutes les démonstrations de 1968, c'est visible sur YouTube, c'est fondateur, mais bon, ça dure 1h40 quand même. Douglas Engelbart, donc l'homme qui voulait augmenter l'intellect humain, décédé l'été dernier, invente la souris. Cette souris a 4 roues et un curseur droit. Quelques années plus tard, les 4 roues sont remplacées par une boule, celle recouverte de gomme que l'on connaît bien, et qui la rend beaucoup plus maniable. Puis ce sera la souris optique en 1981. Donc, entre-temps, on a réalisé qu'un curseur droit, c'était pas idéal, parce que ce curseur se confond avec le texte sur les écrans peu pixelisés de l'époque. En inclinant le curseur, en penchant la flèche vers la gauche, il devient plus facile de tracer des lignes droites ou de surligner une portion de texte parce que ces lignes forment un angle droit avec le bord du curseur incliné. Pas très radiophonique comme explication, j'en conviens. Il faut voir la chose, j'enregistre quelques images. Mais si la flèche penche à gauche, c'est parce que ça se voit mieux, mais aussi parce qu'on écrit de gauche à droite et qu'il faut donc que la tête du curseur soit plus à gauche que la queue de cette flèche. Voilà. C'est comme dans l'écriture manuscrite, en fait, on tient le stylo penché plutôt que droit pour écrire. Rien d'arbitraire, donc, à cette inclinaison vers la gauche du curseur de la souris d'ordinateur. Questa musica che è fatta con il mouse, se non ti piaceva te ne stavi in the house. Oh, questa è musica che è fatta con il mouse, se non ti piaceva te ne stavi in the house. Questa di sicuro non è musica, non l'ascolta chi ascolta Tupac. Two fingers e pacco, pacco, doppio pacco, finger Tupac. Ah, va bene, pare va bene, bene. Cosa vuol dire pare va bene, bene? Vuol dire che la gente non vuole contenuti, gli basta ripetere ok. La gente vuole sudare, ballare, vuole solo gridare. Io la notte non riesco a dormire, per dormire mi pump up di Valium. Se nel club ci sono i two finger, la gente grida.
Le morceau s'intitule Mouse Music. Donc en hommage direct à la chronique de Thibaut, c'est pas sûr que ce soit un hommage à l'ensemble de la musique italienne. Je suis désolé, il y a un Italien autour de la table. Les auteurs, c'est un groupe qui s'appelle Two Fingers. C'est un duo de musiciens, Daniele Lazzarini qui dit Danti et Riccardo Garifo dit Rufio. Et le titre date de 2011. Bon, on va pas non plus en écouter des heures. Hein. Vous écoutez France Culture, Place de la Toile, le magazine des cultures numériques, où nous avons le plaisir de recevoir ce soir Fadi Chehadé, qui est le président et directeur exécutif de l'ICANN, première instance de gouvernance de l'Internet mondial, qui nous fait donc le plaisir d'être avec nous pendant cette émission. D'ailleurs, je précise juste que vous êtes à Paris. Une des raisons de votre venue à Paris, c'était l'inauguration du Point Paris. Hein. Alors, justement... Parlons un peu de ces points Paris, ces points, etc., qui s'ouvrent. Et parlons-en, vous nous en avez parlé tout à l'heure sous l'angle d'ouverture de territoire, de continent. Ce sont aussi, ça obéit à des processus d'attribution qui sont compliqués, hein, juridiquement, etc., mais qui sont aussi des financièrement, qui posent question, en tout cas à moi. Parce que, alors, vous avez donc décidé qu'il y avait des continents qui s'ouvriraient, comme ça, des points. Des dossiers sont déposés. Et je crois que ça coûte 185 000 dollars pour un dossier. Bon. 2000 dossiers à peu près ont été déposés, c'est ça ? 1900, ce qui fait énormément d'argent. C'est-à-dire 400 millions à peu près de dollars qui vous sont arrivés. Alors, question toute bête, ils vont servir à quoi ces 400 millions de dollars juste pour des dépôts de dossiers ? Fadi Chehadé.
L'argent est presque tout dépensé, hein. Parce que le processus de ramener un dossier d'un bout de papier au moment où une société est prête à vraiment donner des services à des clients dans le monde entier sous cette nouvelle entrée dans le monde cyber, c'est très compliqué. Il y a du travail technique, il y a du travail financier, il y a du travail légal. Il y a tout genre de dossiers qui doivent être bâtis pour être sûr que cette société, en fin de cours, pourra vraiment monter un service qui est reliable, qui est prêt à servir les clients bien. Et si ce service ne continue pas à pouvoir sauvegarder les clients et leurs dates. Imaginez si vous commencez votre travail, votre nouvelle église, votre nouvelle communauté, votre nouvelle idée sur l'Internet, et puis l'enregistrement que vous avez fait n'existe plus. Donc il y a tout un processus pour être sûr que ces applications, ces dossiers arrivent à un succès.
Et pourquoi c'est si important pour l'Internet d'ouvrir d'autres points. C'est-à-dire que déjà, le .com, bon, c'est énorme. D'ailleurs, la plupart, je crois, des dossiers d'attribution sont toujours en .com. Hein. Bon. Mais il y a le .fr, il y a les points par pays, il y a des points info, etc. Pourquoi ? Quel intérêt d'ouvrir des points Paris ou des points Chanel ou des points L'Oréal ? Parce qu'il y a aussi des marques, hein, évidemment, qui vont déposer des dossiers d'attribution. Je vois pas comme ça immédiatement l'intérêt que ça a pour l'Internet ou alors pour la société, bon, puisque les intérêts ne sont pas...
Alors, je crois qu'il y a beaucoup d'idées qui vont sortir comment utiliser ces nouvelles adresses. Je crois que les sociétés cherchent toujours à trouver des nouveaux moyens de s'exprimer sur l'Internet. Les communautés cherchent à trouver des moyens de créer des ensembles de gens qui travaillent ensemble autour d'un certain, disons, sujet qui intéresse une communauté. Et le fait est que sur .com, il y avait une grande limitation, et sur les autres 22 qui existaient, il y avait déjà une grande limitation sur les choix qu'on peut trouver. Et puis, deuxièmement, il fallait donner la possibilité à beaucoup de créer des nouvelles adresses en chinois, avec des caractères chinois.
Il y a la question de la langue, effectivement.
Des caractères cyrilliques. D'ailleurs, les premiers sans quelque chose de nouveau seront tous en caractère non latin. Ce qui est très intéressant pour, disons, ma tante en Égypte, qui n'a même pas un clavier français. Elle a un clavier arabe. Donc, pour elle, écrire le nom d'un site arabe en entier, c'est intéressant. Et je suis sûr qu'en Chine et dans les pays de l'Europe de l'Est et la Russie, ça sera aussi intéressant.
Thibault.
Ouais, on voit bien toute l'utilité que ça peut avoir du point de vue des langues, mais du point de vue des marques, je me permets de revenir là-dessus parce que l'expérience avait déjà été tentée en 2002. Il y avait eu l'introduction des points biz, par exemple. Et ce qu'on avait observé, c'est que les marques s'étaient précipitées sur cette extension point biz en achetant les noms de domaine pour ne pas se faire cyber-squatter et ensuite qu'on cherche à leur revendre à prix d'or ces noms de domaine. Et ce qu'on observe depuis une dizaine d'années, c'est que finalement, ces noms de domaine sont très peu utilisés. Alors, par rapport à cette expérience, je ne sais pas si vous avez fait un bilan quelconque de cette première tentative, mais...
Est-ce qu'il n'y a pas le risque qu'il se passe la même chose avec les extensions en point L'Oréal, point Chanel, point etc. Et que finalement, ça a coûté quand même très cher, parce qu'on sait que des entreprises ont déposé plus de... Google a déposé 100 dossiers, c'est-à-dire Google a dépensé 18 millions de dollars, juste de dépôt de dossiers, et dont on n'est pas sûr qu'elles vont utiliser les 100 si les 100 sont attribués. Est-ce qu'il n'y a pas un risque comme ça que du coup beaucoup d'argent vous soit arrivé pour suivre des dossiers, pour les mettre en place, etc., puis au final tout ça ne sert pas à grand chose?
Je crois que c'est possible que quelques dossiers n'arriveront à rien faire. Et comme l'ICANN n'est pas une société pour le bénéfice, mais en fait c'est une société qui est là pour le bien public, donc c'est pas à nous de décider, c'est les gens qui ont fait des décisions, j'espère basées sur des business plans qui sont bien faits, et ils ont décidé qu'il y a peut-être des idées derrière ça. Je veux aussi souligner les nouveaux TLD ou les nouveaux noms de domaine
de haut niveau, ouais.
Qui sont pour les villes. Oui. Que je trouve très intéressant. Hier, j'ai vu tous les pionniers qui ont été annoncés pour la ville de Paris. Tour Eiffel .Paris, métro .Paris.
Et c'est quoi, par exemple, Tour Eiffel .Paris, il y aura quoi? C'est quoi l'idée de Tour Eiffel .Paris?
Alors, beaucoup de gens trouveront le site officiel de la Tour Eiffel avec Tour Eiffel .Paris, peut-être. Métro .Paris va annoncer, ils ont dit hier, une nouvelle carte qui est faite spécialement pour Métro .Paris. Donc il y aura de nouveaux services. J'ai été dans un autre pays où une ville va donner à chaque citoyen leur site, point la ville. Et sur ce site, le citoyen pourra avoir toutes ses interactions avec la ville dans un site. Tout ce qu'il paye, la ville, tous les services de la ville pour lui, comment il contacte les bureaux spécifiques qui sont pour lui, etc. Donc, il y aura beaucoup d'idées. Il y a un pays qui a décidé qu'ils vont donner à chaque nouveau bébé qui est né son site. Et sur ce site...
On a des papiers d'identité, etc., et un site.
Oui. Aujourd'hui, si vous ouvrez une nouvelle société à Dubaï, vous avez immédiatement, avec les papiers, vous recevez le nom de votre société dans AI pour Dubaï. Donc, il y a beaucoup d'idées d'utiliser ces noms pour créer des espaces nouveaux. Et c'est important qu'il y ait des espaces dans tout le monde, parce que les espaces .com, les espaces .org commencent à devenir limités dans le monde.
Vous disiez tout à l'heure, Fadish et Adé, que vous étiez en train de lancer un processus dont l'aboutissement pourrait être de ne plus être aux États-Unis, que la CAN ne soit plus aux États-Unis, mais à Genève. Alors, comme ça, Genève, ça veut dire, c'est l'ONU,
Les chocolats.
C'est les chocolats. Mais c'est aussi la FIFA, par exemple. Des organismes. Vous voyez, des organismes...
Transparents, vertueux.
Pas forcément hyper désirables. Vous voyez ? Bon, non, mais quel intérêt d'aller à Genève ? C'est juste marquer le fait que vous vous mettez à distance des États-Unis ?
Non. Tout d'abord, il faut clarifier que nous n'avons pas l'intention nécessairement de fermer nos sociétés aux États-Unis ou dans le monde, parce que maintenant on a commencé aussi à Singapour, à Istanbul, on a de plusieurs présences dans le monde. Mais l'important, c'est qu'on ait une présence légale parallèle à tout cela, sous la structure légale de la Suisse, qui peut donner aux organisations internationales un statut particulier. Mmh. Et ce statut est important pour que l'ICANN commence à être accepté autour du monde comme un organisme international, comme la Croix-Rouge internationale, comme d'autres qui sont là pour le bien public et qui ont des statuts et des protections particuliers qui sont offerts par le gouvernement suisse, qui est pratiquement très bien préparé et très bien établi pour ce type d'organisation.
Est-ce que tout le monde a envie que l'ICANN devienne une organisation internationale du type la Croix-Rouge ? Ou est-ce qu'il n'y a pas aussi des gens qui aimeraient que l'ICANN devienne un organisme international comme l'ONU, c'est-à-dire très international, c'est-à-dire avec les gouvernements plutôt qui... C'est quand même une question qui est une question extrêmement importante, parce que depuis le début, l'ICANN repose sur une idée donc, du multi-acteur, hein, du multi-stakeholder, hein, voilà, avec la société civile, les entreprises, etc. Mais que tout le monde n'a pas forcément envie que ça fonctionne comme ça, l'ICANN, et préférerait que ce soit des gouvernements qui soient représentés simplement, que ce soit les gouvernements qui... Voilà. Et donc du coup, comment tenir... Vous êtes, j'imagine, dans l'option multi-stakeholder, multi-acteur, hein, puisque vous-même, vous ne provenez pas d'un gouvernement, vous provenez d'une... de ce monde d'entreprise. Enfin, il y a des pressions sont quand même fortes, j'ai l'impression. Les discussions ont lieu régulièrement à Dubaï. Elles ont eu lieu il y a un an aussi de manière très, très forte. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que ça devienne un organisme international, gouvernemental, intergouvernemental ?
Alors, c'est très important la distinction que vous avez faite, que pas tous les organismes internationaux sont seulement limités au gouvernement. Le CICR, la Croix-Rouge internationale de Genève, ou FIFA ou des autres, ne sont pas limités à des gouvernements. C'est très important pour l'ICANN de continuer la tradition de multi-stakeholder, d'avoir des acteurs qui représentent les gouvernements, mais aussi des acteurs qui représentent tous les secteurs. Et à ça, on tient. À ça, on tient. Parce que l'Internet n'est pas complet si toutes les décisions sont faites par une catégorie d'acteurs. Les utilisateurs doivent avoir une voix très importante, parce qu'aujourd'hui, les utilisateurs, c'est l'Internet. Hier, on a entendu que Facebook va dépenser 19 milliards de dollars sur une boîte qui n'a pas beaucoup de...
C'est WhatsApp.
Oui, mais ils ont 450 millions d'utilisateurs.
Ouais, c'est 100 salariés, je crois, et...
Donc c'est les utilisateurs qui sont importants et leur voix sur le futur de l'Internet est importante. L'industrie aussi. 93% des ressources de l'Internet sont contrôlées par l'industrie, pas par les gouvernements et pas par les utilisateurs. Donc l'industrie doit participer dans les décisions, sinon on ne peut pas y arriver. Mais trouver cette balance entre les utilisateurs, les industries, les gouvernements et le monde technique qui est très important dans la gouvernance de l'Internet, c'est vraiment le travail multi-stakeholder, multi-acteur. Et c'est un travail très délicat et très important, mais c'est le futur. C'est le futur de l'Internet.
Alors, Fadi Chahadé, justement, sur le futur de l'Internet, la prérogative très importante de l'ICANN, donc c'est le DNS, le Domain Name System. Or, il se trouve que... d'autres gens réfléchissent à créer leur propre DNS, voire le font. Par exemple, Google, créer une sorte de DNS à part. Ce qui signifie que tout à coup, il se pourrait, et vous avez évoqué, on a évoqué cette question-là tout à l'heure, il se pourrait que les prérogatives de l'ICAN, tout à coup, cessent d'être aussi importantes qu'elles ne le sont. C'est-à-dire qu'il y a d'autres systèmes. Et puis même, on peut imaginer que si le jour où se développe vraiment un Internet des objets, pourquoi pas, enfin voilà, tout à coup, je sais pas, ça se fasse un peu ailleurs, un peu autrement, etc. Est-ce qu'il est possible que l'ICAN, finalement, progressivement, voit ses prérogatives se disperser, se décentraliser, etc. Et donc, je sais pas, se fondent, disparaissent.
Tout est possible sur l'Internet, comme on a bien appris. Mais laisse-moi répondre à la question d'une manière plus technique. Il est possible qu'il y ait d'autres solutions techniques. D'ailleurs, il y a d'autres solutions techniques aujourd'hui. Et la raison pour laquelle le DNS continue à être important, c'est le fait que l'économie du monde et la valeur de l'Internet s'appuient sur le fait que l'Internet est uni. J'étais en Chine il y a quelques jours. Et là, par exemple, ils ont des applications nouvelles en Chine qui ont des centaines de millions d'utilisateurs dans la Chine, mais également une des applications que j'ai vues a 110 millions d'utilisateurs en dehors de la Chine.
Où ?
Pardon ?
Où ?
Partout dans le monde.
Ah bon ? D'accord.
Alors, même pour les Chinois, beaucoup de gens pensent que les Chinois ont assez de masse pour avoir leur Internet. Même pour eux, l'importance d'un Internet uni, d'un DNS qui unit la structure de l'Internet est importante.
Donc en fait, c'est l'intérêt presque économique, disons, qui ferait qu'il n'y aurait pas ce qu'on appelle la balkanisation de l'Internet, c'est-à-dire pas la création de multiples Internets comme ça, nationaux ou pas simplement nationaux, d'ailleurs entrepreneuriaux, parce que finalement, Google, ce serait un Internet entrepreneurial, pas international. Donc l'intérêt économique est qu'en fait, l'Internet reste uni, selon vous.
D'ailleurs, ce que vous avez dit maintenant est très important parce qu'il y a eu une étude qui vient de sortir du Boston Consulting Group qui démontre que si l'Internet est fragmenté, c'est le nouveau mot au lieu de balkanisation,
pour respecter qui stigmatise un peu trop les Balkans, qui ne sont pas du tout aussi divisés que ça.
La fragmentation de l'Internet peut coûter les pays jusqu'à 2,5 de leur PNB. Donc, ils ont démontré dans cette étude très intéressante qu'il y a 55 facteurs de fragmentation. Ils les appellent friction factors, de friction. Et le plus les pays mettent en place ces frictions, le moins leur PMB...
Mais Fadi Chehadé, le problème, c'est qu'il y a d'autres intérêts que l'intérêt économique. Et par exemple, ce qui s'est passé avec l'affaire Snowden, voilà, où tout à coup, vous avez un intérêt qui est peut-être un intérêt, je ne sais pas, pour préserver sa propre souveraineté sur les données, etc., qui peuvent mener à vouloir construire des internets un peu séparés du monde, parce que c'est se protéger aussi contre la surveillance américaine, par exemple. Hein. Pas la seule, mais enfin...
Sans doute, oui. C'est vrai que si... On pense à tout ce qui peut être fait qui n'est pas bien sur l'Internet. La réaction simple, c'est de diviser, de créer des Internets limités.
Comme ce que vous disiez sur le Liban tout à l'heure.
Mais je crois qu'on va perdre beaucoup plus si on divise l'Internet. Donc ce qu'on doit faire, au lieu de réagir avec une division de l'Internet, c'est de mettre en place des nouveaux principes de gouvernance qui remettent, comme on a dit plus tôt, la confiance dans le système. Et ça va prendre du temps. Et la participation du gouvernement, des acteurs civils, des industries, tous.
Toute petite dernière question.
Oui, ce risque de splinternet, on voit bien...
À toujours aller chercher un mot compliqué.
Ah oui, c'est parce qu'il est jolie formule, bref. Non, mais vous voyez bien, vous avez pris l'exemple de la Chine, mais qui illustre parfaitement... que l'Oasis est compatible avec la forteresse, finalement.
Alors, regardez, la Chine commence à voir, à travers leurs services Alibaba, leurs services, leurs applications, que créer une forteresse chinoise ne va pas marcher. Ça va leur donner des problèmes de travail, d'économie, d'arriver à leur marché, de partager leurs nouvelles innovations. Donc, même pour eux, même s'ils ont la masse immense... ils voient que l'accès est plus important pour eux.
Vous avez une confiance dans le marché qui est forte.
Aujourd'hui, on a presque 3 trillions ou milliards de milliards de dollars qui sont générés à travers l'économie digitale. Ça donne beaucoup d'espoir à un monde qui a besoin de travail, qui a besoin d'une économie qui croit pour tous.
Merci beaucoup Fadi Chehadé d'être passé par Place de la Toile alors que vous ne restiez pas longtemps à Paris et que vous êtes sur le départ, vous allez vous rendre à Barcelone. puis après vous m'avez dit Istanbul, enfin etc. Vous allez vivre vraiment. Bon. Mais c'est ça, Internet c'est mondial. Merci beaucoup d'être venu.
Merci.
Vos références sont sur la page de l'émission, une page où vous pouvez aussi télécharger cette émission pendant un an et la réécouter pendant 1000 jours. Alors la semaine prochaine, l'émission s'inscrira dans un week-end, tout un week-end que France Culture passera sur la toile, donc un peu chez vous, Fadi Chehadé. Près de 20 émissions du week-end parleront de numérique, mais de toutes les manières possibles, sous tous les angles possibles. Et nous, voilà, on adoptera un point de vue assez général, on discutera 10 idées reçues de l'Internet, sur l'Internet. Avec Antonio Cassilli. Ce sera donc samedi prochain à 18h10, place de la Toile, Thibaut Henton, Xavier Delaporte à la technique. Aujourd'hui, c'était Jean Frédérics. Réalisation Gilles Davidas. Il est 19h sur France Culture. Tout de suite, vous retrouvez Elisabeth Tchungi sur écoute. Bonne soirée, bonne semaine.